Il est 18h et c'est l'heure des informations du studio Kalangou. Messieurs, mesdames, merci pour la fidélité au programme du studio Kalangou. Cette année, au Niger, la secte Boko Haram aurait perçu plus de 500 millions de francs CFA comme rançon de la région de Diffa. On en parle dans un instant avec Sidik Abba, spécialiste des questions sécuritaires. Paris en désaccord avec un éventuel dialogue avec des djihadistes au Mali alors que le chef de gouvernement de la transition malienne y voit une opportunité. En partie magazine, la place de la femme dans le processus électoral au Niger. Au micro, Hawa Maman. Au Niger, en termes de rançon, Boko Haram aurait perçu plus d'un demi-milliard de francs CFA dans la seule région de Diffa sous la période du 1er janvier au 30 septembre 2020 suite aux enlèvements des personnes. Le journaliste, écrivain et spécialiste des questions de Boko Haram, Sidik Abba, nous en parle. Il est joint par Tavnan Foudey Ahmed.
Dans la zone de Diffa, nous sommes barrés selon la personne allégée. Pour certains, Boko Haram demande 1 million de naira, quelqu'un d'autre 800 000 naira. Et donc, les populations sont obligées de revendre leurs animaux. Et l'accumulation de toutes ces sommes-là fait qu'on est arrivé à ce montant de 20 milliards de francs CFA, qui, à mon avis, est inférieur à la réalité.
Est-ce que cette économie des rançons a ruiné les populations de Diffa?
Absolument. C'est une désespérance pour les populations de Diffa. D'abord, compte tenu de l'insécurité, elle ne peut plus cultiver lors de la commanderie de pays. Et aujourd'hui, ils ont demandé de payer des rançons. Les populations sont obligées de vendre ce qui leur reste en pied, souvent sur le bureau familial. Vous savez que la paupérisation des populations, ça crée aussi les conditions pour que Boko Haram continue à recruter. Parce que les gens n'ont rien à faire. Donc, et ça explique pourquoi on ne casse pas cette économie de la rançon. On risque de ne pas gagner la guerre contre Boko Haram.
Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a fermement annoncé le 26 octobre dernier à Bamako, le désaccord de Paris sur un éventuel dialogue avec des groupes djihadistes. Le chef du gouvernement de la transition malienne, pour sa part, a évoqué une opportunité pour la paix au Mali. Selon l'analyste politique et chercheur à l'université de Bamako, Ali Tunkara, le gouvernement de transition et un nombre important de Maliens sont pour ce dialogue.
Pour rappel, lors des assises qui ont été organisées dans le contexte malien en 2017, et lors également du dialogue national inclusif fin 2019, les Maliens avaient émis le souhait de déclencher le dialogue avec les groupes radicaux violents, même si le ministre français Le Drian, lors de son passage à Bamako, s'était opposé à une telle offre. Beaucoup de Maliens, on ne peut aucunement asseoir une paix durable dans un pays qui fait l'objet des attaques terroristes par les seules réponses militaires. Lorsqu'une puissance étrangère dans un pays souverain s'oppose à une telle offre de dialogue, naturellement, ça soulève la question de souveraineté, ça soulève même la question de tutelle du Mali.
Nous pouvons dire que le gouvernement est résolument engagé à poursuivre ces négociations.
Clairement, la prise de parole du Premier ministre malien, M. Wan, était sans équivoque.
À moins de 2 mois de la célébration de la fête de la République le 18 décembre prochain à Diffa, les travaux en train de la modernisation de la ville de Diffa ne sont pas encore bouclés. Le président du comité d'organisation de la fête tournante Diffangla, Abdoulaye Marouma, explique cette situation par le retard accusé dans le démarrage des travaux. C'était à l'occasion d'une conférence de presse samedi à Diffa, des propos recueillis de la page Facebook dédiée à cette fête.
Tout ce qui est des infrastructures, le bâtiment, tout ce qui est prévu pour être utilisé, ils sont pratiquement à 80%. Sinon, pour la plupart, on tourne autour de 90%. D'ici 3 semaines maximum, l'ensemble de ces bâtiments seront livrés. L'autre infrastructure, c'est la voirie urbaine. Malheureusement, nous avons eu beaucoup de retard pour démarrer ces travaux. Nous avons une programmation de 14,7 km de route bitumée à faire dans la ville de Diffa, mais nous n'aurons que la voie principale qui va en même temps servir d'axe de défilé, qui fait à peu près 4,5 km. Inch'Allah, tout le paquet sera mis pour que cette voie-là soit disponible pour la fête.
Contribution de la jeunesse à la renaissance culturelle, c'est le thème d'un panel animé samedi à Niamey par le ministre nigérien de la renaissance culturelle. Cette rencontre entre dans le cadre des préparatifs de la grande rencontre citoyenne des jeunes avec le président de la République prévue demain 4 novembre. Assoumana Malam Issa a à cette occasion appelé les jeunes à être des citoyens modèles et entrepreneurs. On l'écoute au micro de Michel Deji.
Toutes les actions du changement de comportement pour qu'on ait un Nigérien modèle, c'est des actions qui bénéficient d'abord à la jeunesse. Et pratiquement toutes les questions d'antivaleur, là où la population souffre, c'est les jeunes qui souffrent. Donc, ils sont au départ et à la fin du processus de la renaissance culturelle. Et le fait que nous participions aux initiatives de ces jeunes prouve que c'est des contributions que nous estimons très, très importantes, notamment les organisations de jeunesse qui organisent des festivals, qui organisent des forats, qui organisent des activités de promotion culinaire, etc. Ce sont autant de choses extrêmement importantes pour la culture nigérienne, mais aussi pour la renaissance culturelle, puisque du point de vue du développement de l'entrepreneuriat privé, c'est des initiatives qui créent l'emploi, qui créent de la richesse. Et je pense que ce changement, allant dans le sens de se dire que l'État ne peut pas employer tous les diplômés et qu'il faut créer des initiatives, il faut entreprendre, c'est des changements de comportement inestimables que nous encourageons.
Une réunion d'évaluation des activités des 6 mois écoulés des relais communautaires rattachés au centre de santé intégré de la commune de Tessawa s'est tenue le samedi 31 octobre dernier. Un résultat jugé satisfaisant par le chef du centre de santé intégré, Al-Mustapha Mungay. Selon lui, plusieurs cas de paludisme ont été pris en charge à temps grâce à l'implication de ses agents communautaires. Des propos recueillis par Seydou Sanki.
Ce sont des relais qui prennent les enfants en charge en leur donnant des médicaments contre la diarrhée et la toux. Nous avons évoqué les actions qui les ont menées. Ensuite, nous avons apporté des modifications permettant de continuer le travail jusqu'à la fin de l'année 2020. Tout le monde reconnaît que cette année, le pic du paludisme a dépassé largement celui de l'année dernière. Chaque matin, 20 enfants sont admis aux soins et ce sont ces relais qui prennent en charge la moitié de ces enfants. Donc, cela a permis de décongestionner les centres de santé. S'ils réfèrent les enfants atteints du paludisme ou de la diarrhée, c'est que c'est des cas grave. Mais ils s'occupent des cas simples à leur niveau, comme ils ont en leur possession des médicaments qu'ils donnent gratuitement aux enfants de 0 à 5 ans.
Et à l'occasion de la Journée mondiale de la gentillesse célébrée ce jour, le sociologue nous entretient sur le sujet qui est d'origine anglo-saxonne. Selon lui, la gentillesse est une valeur partagée au Niger. Selon lui, la gentillesse est un des fondements de notre société. Issa Alou Aye est joint au téléphone par Talata Abdou Bahar.
La gentillesse, c'est ce sentiment-là, ou cette prédisposition que nous pouvons avoir vis-à-vis d'autrui face à des situations critiques. Je pense que ce mouvement qui a vu le jour en Asie et qui est en train de devenir mondial peut s'expliquer du fait que tout simplement en Occident ou en Asie, cette problématique n'est pas d'actualité. Ils sont plus là-bas dans un monde d'individualisme. Tout le contraire de l'Afrique et particulièrement du Niger qui se repose sur des liens communautaires. La gentillesse, la solidarité, l'amour, la compassion. Donc là, c'est une des qualités que nous avons. Mais malheureusement, cette valeur est en train de s'effriter au fur et à mesure de l'évolution de nos sociétés, surtout lorsqu'on aura à faire la comparaison entre le monde rural qui est encore ancré sur ses valeurs et le monde urbain qui, de plus en plus, est ouvert vers l'extérieur. Essayons d'être gentils avec les autres puisque la vie, ce n'est que le reflet. On donne ce qu'on a reçu.
Dans le cadre de notre série sur la voie de l'amour chez les jeunes au Niger, voici le témoignage de Cheibou, 18 ans, il est élève à Niamey.
Je me présente Cheibou Moussa, j'ai 18 ans, je suis en classe de 5e B, je suis de Niamey. Je pense que c'est à l'âge de 14 ans que j'ai rencontré ma première copine. Ça s'est passé un peu, lorsque je l'ai vu, j'ai senti quelque chose. Et carrément, je partais, l'a dit ce que je sentais dans mon cœur. Le premier jour, elle m'a dit que je l'ai laissé pour partir réfléchir. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. J'attends. Ne prends pas beaucoup de temps. Le deuxième jour, elle a dit oui. J'ai dit, moi, je t'aime beaucoup. Elle a dit, il n'y a pas de problème. On a duré pour faire. Je pense que c'est un an qu'on a fait ensemble. Dans les 2 ans, elle m'a trahi. Moi, j'aimerais marier à 20 ans.
Les jeunes témoignent. Une production de Studio Kalangu.
Bonjour docteur.
Bonjour madame Traoré. Comment puis-je vous aider?
Docteur, vraiment, je ne vais pas vous mentir, je suis un peu dépassée par les événements. Depuis que mon mari a été isolé suite à la COVID-19, je ne sais plus comment me comporter.
Ah, Madame Traoré, je comprends parfaitement ce que vous traversez. Ce n'est pas chose facile d'avoir un proche atteint de cette maladie.
En effet, docteur, c'est la raison pour laquelle j'ai besoin de vos conseils. C'est une nouvelle situation pour nous tous.
Je vais vous donner deux recommandations, sinon trois. Premièrement, ne laissez pas la peur vous dominer. La peur n'a pas sa place dans le combat contre la COVID-19. En deuxième lieu, votre mari est isolé en ce moment, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. C'est la première fois d'ailleurs que nous sommes autant séparés en 15 ans de mariage. Docteur.
Ce n'est pas grave. La situation oblige Madame Traoré. Apportez-lui tout votre soutien. Il a besoin de se sentir soutenu. Appelez-le tout le temps et rassurez-vous qu'il ne manque de rien. Nous devons soutenir tous nos malades, ceux qui sont isolés comme ceux qui sont en quarantaine en ce moment. Et troisième conseil, Madame Traoré, sensibilisez les gens autour de vous sur cette maladie. Que les gens continuent de respecter les gestes barrières.
Merci docteur, je pars de ce bureau rassuré. Merci pour vos conseils.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Parti Magazine, en prélude aux élections générales prochaines au Niger, les femmes et les jeunes se mobilisent dans le processus électoral. Mais jusqu'alors, nombreuses sont celles qui estiment que la femme n'a pas sa place dans la politique qui n'est pas destinée à tout le monde. Pour le directeur régional de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de la région du Tawa, la femme doit apporter sa contribution dans le processus électoral en tant qu'électrice ou candidate. Alassane Issa est interrogé par Tila Amadou.
Qui a le droit de faire la politique? Quelle est la place de la femme?
Tout le monde a droit de faire la politique, que ce soit les femmes ou bien les hommes. En principe, la femme doit occuper un rôle le premier même. Mais dans les faits, nous savons très bien que les femmes sont sous-représentées. Et cette sous-représentation-là, elle est due à notamment les différents obstacles politiques, socio-culturels, socio-économiques, les pesanteurs religieux, pour ne citer que cela.
Comment faire pour qu'elle s'implique davantage?
Pour qu'elle s'implique davantage, donc il faut penser à éliminer les obstacles. Il faut les aider. Pourquoi pas? Un parti politique peut décider de subventionner, par exemple, tout ce qui est frais en lien avec la préparation des dossiers d'une candidate. Ça aussi, c'est une manière de l'aider, c'est une manière de faire en sorte que cette femme émerge. Parce que le fait même qu'elle se porte volontaire pour briguer un poste, c'est quand même quelque chose de très intéressant qu'il faut encourager pour permettre à cette participation effective des femmes dans la vie politique.
Qui peut postuler candidat à quel
poste? À tous les postes, les femmes peuvent postuler. De la présidence de la République en passant par l'Assemblée jusqu'à la nomination des gouvernements, les gouverneurs et les ministres. On peut descendre jusqu'aux mairies. Vous voyez, à tous ces postes, les femmes peuvent très bien postuler. Mais ce sont ces obstacles qui font que ces femmes-là n'auraient pas émergé pour s'affirmer dans la sphère des instances dirigeantes du pays. Dès qu'on a la majorité civile, je pense qu'on peut être électeur et on peut être éligible. Dès qu'on a plus de 18 ans, c'est fini. Maintenant, par rapport au niveau, bon, là, ça dépend. Ça dépend, tout comme quand on demande à être un maire ou bien à se présenter comme conseiller municipal ou conseiller régional ou bien à être un député, il y a un niveau qui est requis pour qu'elle puisse accéder à ces responsabilités-là. Et les femmes ont cette capacité parce que et nous savons très bien que, même si pas aussi nombreuses que les hommes, il y a quand même des femmes qui sont à un niveau d'études très, très important.
À suivre, le forum Espace Femmes en Germa pour parler de comment les femmes financent leur campagne électorale. Et c'est avec Salamatou Kadri, très bonne réception.
Hey Issa, cette histoire de COVID-19 me rend malade. J'ai peur, je me sens mal tout le temps et sans te mentir, j'ai peur de tout le monde. Je ne fais que lire les infos sur cette maladie sur les réseaux sociaux.
C'est normal d'avoir peur. Depuis le début de cette pandémie, je t'ai souvent répété de faire attention à tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux. Ce sont des fausses informations pour la plupart.
Mais que dois-je faire? Où aller alors pour me tenir informé?
Informe-toi sur le site officiel de l'Organisation mondiale pour la santé et les plateformes d'information des autorités de santé du Niger. La connaissance des faits peut t'aider à réduire la peur.
Cette fois-ci, je tâcherai de suivre tes conseils. Je me rends compte qu'il y a tellement d'informations et de fausses rumeurs qu'il faudrait qu'on lutte contre la désinformation. En effet, à cause de la peur, je dors moins et je suis tout le temps fatiguée.
Une dernière chose. Pense à tout ce que tu as vécu de positif dans la journée. Et prends la vie du bon côté. Focalise toute ton énergie à sensibiliser les gens sur les mesures préventives à respecter. Rappelle aux gens que la maladie existe toujours et que l'assouplissement de certaines mesures prises par l'État ne doit pas rimer avec le lâchement des gestes barrières.
D'accord, merci Issa.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.